Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Un jour, Jésus a déclaré à ses disciples « Je suis le vrai plant de vigne ». Que voulait-il dire par ces paroles ? Nous allons le découvrir en compagnie de notre invité Alain.
Mais tout d'abord, écoutons Jésus raconter une parabole. Elle se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 17.
Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres.
Merci. Et le moment est venu de souhaiter la bienvenue à notre invité Alain. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alors, la dernière fois, nous avons commencé nos discussions sur cette parabole. Nous avons notamment appris que Jésus, en déclarant « Je suis le vrai plant de vigne », dévoile une fois de plus son identité. Il est Dieu avec nous.
C'est exact, Yann. La deuxième leçon importante qui se dégage de ce discours est celle-ci. Pour porter du fruit, il est essentiel de demeurer en Christ. Un sarment qui n'est pas attaché au cep de vigne ne peut plus produire de grappes de raisin. Cela relève de l'impossible. De la même manière, tout croyant qui ne demeure pas en Jésus ne peut pas reproduire les fruits de son caractère. C'est impossible.
Vos propos suscitent des questions importantes. Que signifie « porter du fruit » Et quel fruit le chrétien doit-il produire? Et puis, que signifie le verbe « demeurer » dans le contexte de cette parabole? Comment le chrétien peut-il aussi demeurer en Christ? Commençons aujourd'hui par la première question. Le chrétien est appelé à porter du fruit, mais de quel fruit s'agit-il?
Il s'agit, j'en suis persuadé, d'un changement de vie, d'une transformation progressive de nos pensées et de notre attitude, de notre conduite et de notre comportement.
Et pouvez-vous appuyer vos propos avec des textes bibliques?
Bien sûr! Prenons pour exemple le prophète Jean-Baptiste. Il annonçait le message du pardon des péchés, mais il demandait à ceux qui venaient se faire baptiser de produire des fruits qui confirment un changement d'attitude. Ce texte se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 3, verset 8. Puis au verset 9, Jean-Baptiste déclare « Attention, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Jean-Baptiste a expliqué le sens de ces paroles en exhortant notamment les personnes malhonnêtes et corrompues à se conduire avec intégrité et droiture. De même, les écrits de l'apôtre Paul nous éclairent sur les fruits que le chrétien est appelé à reproduire dans sa vie. Yann, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, les versets 22 et 23?
Oui, bien sûr, ces versets sont bien connus. Paul écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. »
Vous voyez, le fruit que le chrétien est appelé à porter est riche de qualités extraordinaires qui devraient caractériser toute sa vie. Pour lui, revêtir de telles qualités n'est pas le simple résultat d'un respect à une liste de règlements ou de traditions. Non, une telle transformation touche sa façon de penser et d'être, elle transforme son attitude et ses réactions en toutes circonstances et face aux divers événements de sa vie. En fait, elle embellit son approche dans ses relations personnelles.
Nous avons besoin de Jésus. Sans lui, il nous serait impossible de faire de réels progrès.
Voilà la raison pour laquelle il est vital de demeurer en Jésus et de dépendre de son esprit.
Mais Alain, ces fruits dont Paul parle apparaissent-ils dans le discours de Jésus? Comment être certain que Paul et Jésus parlent de la même chose?
Au cours de son discours, Jésus exhorte ses disciples en ces termes. « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Puis vers la fin du texte lu, il répète « Aimez-vous les uns les autres ». Le fruit dont Jésus parle ici est celui de l'amour. Ce fruit est porté par tout chrétien qui s'attache sincèrement au Seigneur et qui demeure en lui.
Et l'amour est la première des qualités citées par Paul dans sa liste.
Oui, et j'avancerai même que les autres qualités qui y figurent ne sont que des expressions de cet amour. En effet, elles nous aident à comprendre à quoi l'amour dont Jésus et Paul parlent ressemble. Car la joie peut être une expression de l'amour, tout comme la paix intérieure, de même que la bonté et la fidélité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà autant de facettes de cette même qualité, l'amour.
Oui, le monde voudrait nous imposer sa définition de l'amour, une définition essentiellement sentimentale et sexuelle. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir ce que Jésus voulait dire lorsqu'il nous donne cette exhortation « Aimez-vous les uns les autres ». Toutefois, en méditant sur les qualités énumérées par l'apôtre Paul, nous commençons à comprendre quel est réellement cet amour auquel nous devons aspirer.
Oui, Jésus parle des véritables qualités de l'amour en exhortant ses disciples de la sorte. « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Comme moi-même je vous ai aimé. Alors comment aimer son prochain? En apprenant à connaître Jésus, en observant la façon dont il a aimé ses contemporains, car Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Il est le modèle de l'amour que nous devons reproduire.
Mais pour porter ce fruit de l'amour de Dieu, il nous faut demeurer en Christ, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Tout comme nous l'avons déjà affirmé, il nous est impossible de vivre cet amour sans nous attacher à Jésus. C'est pourquoi, lors de notre prochaine discussion, nous répondrons à la question « Comment demeurer en Christ? Comment vraiment vivre pour lui ?» En attendant, je vous dis au revoir à tous et à bientôt.
Merci Alain. Nous constatons toute l'importance de cette question et nous vous encourageons tous, chers amis, à venir nombreux au rendez-vous pour découvrir la réponse.
Alain vient d'insister sur l'importance de l'amour dans la vie du chrétien. Et durant le temps qui nous reste, notre lectrice Sandra va lire quelques versets bibliques qui développent ce thème. Ces versets vont nous aider à mieux comprendre la façon dont nous devons nous aimer les uns les autres. Nous allons commencer avec une lecture de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Ce texte nous explique le rapport qui existe entre la loi et l'amour.
Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres,
car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi.
À présent, nous allons écouter un texte qui se trouve dans la première lettre de l'apôtre Jean. Ce texte nous rappelle que l'amour s'exprime non seulement en paroles, mais aussi en action. Car aimer, c'est agir, c'est contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent, c'est leur faire du bien.
Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
Vous venez d'écouter la lecture de 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Et voici une dernière lecture. Il s'agit une fois de plus d'une citation de l'apôtre Paul, extraite cette fois-ci de sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14.
Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence.
Merci Sandra pour toutes ces lectures. Ce dernier passage lu nous rappelle que nous pouvons porter ce fruit de l'amour parce que Dieu, en nous aimant, nous révèle son amour et nous le fait connaître, il le fait germer dans notre cœur. Son amour pour nous est fidèle, il est constant, inébranlable. Dieu nous aime et son amour est notre modèle. Voilà pourquoi nous pouvons faire des progrès dans notre désir d'aimer les autres.
Merci Hélène. C'est ainsi que nous terminons notre émission. La prochaine fois, nous parlerons encore de l'image de la vigne et nous verrons comment nous pouvons demeurer en Christ. Car c'est en vivant pour Jésus que l'amour de Dieu peut resplendir dans notre vie. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.